Deuxième partie. Les princesses adultères. Chapitre 1. La banque Ptolémée. Messer Spinello Ptolémée prit un grand air de réflexion, puis, baissant la voix comme s'il avait craint qu'on écoutât aux portes, il dit « 2000 livres en avance. Est-ce bonne somme vous convenant, monseigneur ?» Son œil gauche était clos, son œil droit brillait, innocent et tranquille. Bien qu'il fût depuis de longues années installé en France, il n'avait pu se défaire de son accent italien. C'était un gros homme, au menton double, au teint brun. Ses cheveux grisonnants, soigneusement taillés, retombaient sur le col de sa robe de drap fin, bordée de fourrure, et tendue à la ceinture sur son ventre en poire. Quand il parlait, il élevait des mains grasses et pointues, et les frottait doucement l'une contre l'autre. Ses ennemis assuraient que son œil ouvert était celui du mensonge, et qu'il tenait fermé l'œil de la vérité. Ce banquier, l'un des plus puissants de Paris, avait des manières d'évêque, en cet instant tout au moins où il s'adressait à un prélat. Le prélat était Jean de Marigny, homme jeune et mince, élégant, celui-là même qui, la veille au tribunal épiscopal, devant le portail de Notre-Dame, s'était fait remarquer par ses poses alanguies avant de s'emporter si fort contre le grand maître. Archevêque de Sens, dont dépendait le diocèse de Paris, et frère d'Enguerrand de Marigny, il touchait du plus près aux affaires du royaume. « 2000 livres !» fit-il. Il feignit de déplisser sur son genou la précieuse étoffe de sa robe violette pour cacher l'heureuse surprise que lui causait le chiffre énoncé par le banquier. « Ma foi, cette somme me convient assez, » reprit-il en affectant un air détaché. « J'aimerais donc que les choses fussent réglées au plus vite. » Le banquier le guettait comme un gros chat guette un bel oiseau. « Mais nous pouvons les régler séant, » répondit-il. « Fort bien, » dit le jeune archevêque. « Et quand voulez-vous que vous soient apportés les... » Il s'interrompit, car il avait cru entendre du bruit derrière la porte. Mais non, tout était tranquille. On percevait seulement les rumeurs habituelles du matin dans la rue des Lombards, les cris des repasseurs de lames, des marchands d'eau, d'herbes, d'oignons, de cressons de fontaine, de fromage blanc et de charbon de bois.
« Olé, commère, olé! J'ai du bon fromage de champagne! Charbon, un sac pour un denier !»
Par les fenêtres à trois ogives, faites selon la mode siennoise, la lumière venait éclairer doucement les riches tapisseries, les crédences de chêne, le grand coffre bardé de fer.
« Les articles ?» dit Ptolémée, achevant la phrase de l'archevêque.
« À votre convenance, monseigneur, à votre convenance. » Il ouvrit le coffre et en sortit deux sacs qu'il posa sur un meuble à écrire encombré de plumes d'oie, de parchemins, de tablettes et de stylets.
« 1000 dans chacun, » dit-il. « Prenez-les dès à présent si vous les désirez. » Ils étaient apprêtés pour vous. Vous voudrez bien, monseigneur, me signer cette décharge. »
Et il tendit à Jean de Marigny un feuillet et une plume d'oie.
« Volontiers, »
dit l'archevêque en prenant la plume, sans se déganter. Mais comme il allait signer, il eut une hésitation. Sur la décharge étaient énumérés les articles qu'il devait remettre à Ptolémée pour que celui-ci les négociât. Matériel d'église, ciboire en or, croix précieuse, armes rares, toutes choses provenant de biens saisis naguère dans des commanderies de Templiers et gardées à l'archidiocèse. Or, ces biens eussent dû revenir partie au trésor royal et partie à l'ordre des hospitaliers. C'était un détournement, une belle malversation que le jeune prélat commettait là, et sans perdre de temps. Apposer une signature au bas de cette liste, alors que le grand maître était juste grillé de la nuit.
« J'aimerais mieux, » dit-il, « que les articles ne soient pas vendus en France, » dit Ptolémée. « Cela va de soi, monseigneur. Non sono pazzo, comme on dit en mon pays. Je ne suis pas fou. Je voulais dire, cette décharge, personne d'autre que moi ne la verra jamais. Ce n'est pas plus mon intérêt que le vôtre.
Nous autres banquiers sommes un peu comme les prêtres, monseigneur. Vous confessez les âmes, nous confessons les bourses, et sommes-nous aussi tenus au secret? Et bien que je sache que ces fonds ne serviront qu'à fournir votre inépuisable charité, je n'en soufflerai mot. C'est seulement dans le cas où il nous arriverait malheur à l'un ou à l'autre que Dieu nous en garde. Il se signa, et puis rapidement, derrière la table, il fit les cornes avec les doigts de la main gauche. « Ce ne sera pas trop lourd ?» poursuivit-il en désignant les sacs, comme si pour lui l'affaire ne souffrait plus discussion. « J'ai mes serviteurs en bas, » répondit l'archevêque. « Alors, ici, je vous prie, » dit Tholomeï en marquant du doigt sur le feuillet la place où l'archevêque devait signer. Celui-ci ne pouvait plus reculer. Quand on est forcé de prendre des complices, on est bien obligé de leur faire confiance. « Vous voyez d'ailleurs, monseigneur, » reprit le banquier, « qu'à pareille somme, je ne puis guère attendre de profit. J'aurai les peines et point de bénéfices. » Mais je veux vous avantager parce que vous êtes un homme puissant et que l'amitié des hommes puissants est plus précieuse que l'or. » Il avait prononcé cela d'un ton débonnaire, mais son œil gauche était toujours fermé. Après tout, le bonhomme dit vrai, pensa Jean de Marigny. Et il signa la décharge. À propos, monseigneur, dit Tholomeï, savez-vous comment le roi, que Dieu le préserve, a reçu les chiens à lièvre que je lui ai envoyés hier? Ah, comment, c'est donc de vous que vient ce grand lévrier qui ne le quitte plus et qui l'appelle Lombard? Il l'a appelé Lombard. Ah, je suis content de l'apprendre. Le roi, notre sire, a bien de l'esprit, dit Tholomeï en riant. Figurez-vous qu'hier matin, monseigneur, il allait raconter l'histoire lorsqu'on frappa à la porte. Un commis parut, annonçant que le comte Robert d'Artois demandait à être reçu. « Bien, je vais le voir, » dit Tholomeï en renvoyant du geste son commis. Jean de Marigny s'était rembruni. « Je préférerais ne pas le rencontrer, » dit-il. « Certes, certes, » répondit le banquier avec douceur. « Monseigneur d'Artois est un grand parleur. » Il agita une clochette. Une tenture s'écarta aussitôt, et un jeune homme en juste au corps serré pénétra dans la pièce. C'était le garçon qui, la veille, avait failli renverser le roi de France. « Mon neveu, lui dit le banquier, reconduis monseigneur sans passer par la galerie, en veillant à ce qu'il ne rencontre personne, et porte-lui ceci jusqu'à la rue, ajouta-t-il en lui mettant les deux sacs d'or dans les bras. « À vous revoir, monseigneur. » Messer Spinello Tholomeï s'inclina bien bas pour baiser l'améthyste au doigt du prélat. Puis il souleva la tenture. Lorsque Jean de Marigny fut sorti, le Siennois revint vers la table, prit le reçu signé, le plia soigneusement. « Coglione !» murmura-t-il. « Vanezio ladro, ma soprattutto coglione !»« Couillon ! Vaniteux voleur, mais surtout couillon !» Son œil gauche un instant s'était ouvert. Ayant serré le document dans le coffre, il quitta la pièce à son tour pour accueillir son autre visiteur. Il descendit au rez-de-chaussée et traversa la grande galerie éclairée par 6 fenêtres où étaient installés ses comptoirs. Car Tholomeï n'était pas seulement banquier, mais aussi importateur et marchand de denrées rares, depuis les épices et les cuirs de Cordoue jusqu'aux draps de Flandre, aux tapis de Chypre brodés d'or, aux essences d'Arabie. Une dizaine de commis s'occupaient des clients qui entraient et sortaient sans cesse. Les comptables faisaient leurs calculs à l'aide d'échiquiers spéciaux sur les cases desquels ils empilaient des jetons de cuivre, et la galerie entière résonnait du sourd bourdonnement du commerce. Tout en avançant rapidement, le gros Siennois saluait quelqu'un, rectifiait un chiffre, ou spillait un employé, ou faisait refuser d'un « niente » prononcé entre les dents une demande de crédit. Robert d'Artois était penché sur un comptoir d'armes du Levant, et soupesait un lourd poignard damasquiné. Le géant se retourna d'un mouvement brusque quand le banquier lui posa la main sur le bras et prit cet air rustre et jovial qu'il affectait généralement. « Alors, monseigneur, lui dit Tholomeï, besoin de moi ?»« Ouais, fit le géant, deux choses à vous demander. La première, j'imagine, c'est de l'argent. » « Chut !» grogna d'Artois. « Est-ce que tout un chacun doit savoir, usurier de mes tripes, que je vous dois des fortunes ?»«
Allons causer chez vous. » Ils sortirent de la galerie. Une fois dans son cabinet, au premier étage, et la porte refermée, Ptolémée dit «
Monseigneur, si c'est pour un nouveau prêt, je crains que ce ne soit plus possible.
« Pourquoi ?»«
Cher Monseigneur Robert, » répliqua posément Ptolémée, « quand vous avez fait procès à votre tante Mao pour l'héritage du comté d'Artois, c'est moi qui ai payé les frais. Ce procès, vous l'avez perdu. »«
Mais je l'ai perdu par infamie, vous le savez bien !» s'écria d'Artois. « Je l'ai perdu par les intrigues de cette chienne de Mao. Qu'elle en crève ! On lui a donné l'Artois pour que la Franche-Comté, par sa fille, revienne à la couronne. Marché de coquin ! Mais en vraie justice, je devrais être père du royaume et le plus riche baron de France. Et je le serai, vous m'entendez, Ptolémée ? Je le serai !»
Et de son poing énorme, il frappait la table.
« Je vous le souhaite, » dit Ptolémée, toujours calme.
« Mais en attendant, vous avez perdu votre procès. » Il avait abandonné ses manières d'église et en usait avec d'Artois bien plus familièrement qu'avec l'archevêque.
J'ai quand même reçu la châtellenie de Conches et la promesse du comté de Beaumont-le-Roger avec 5 000 livres de revenus, répondit le géant.
Mais votre comté n'est toujours pas constitué, et vous ne m'avez rien remboursé. Au contraire,
je n'arrive point à me faire verser mes revenus. Le trésor me doit les arrérages de plusieurs années,
dont vous m'avez engagé une bonne part. Il vous a fallu de l'argent pour réparer les toitures de Conches et les écuries.
Elles avaient brûlé, dit Robert.
Bon.
Et puis il vous a fallu encore de l'argent pour entretenir vos partisans en Artois.
Et que ferais-je sans eux ?
C'est grâce à ces féaux amis, à Fienne, à Soistre, à Caumont et aux autres, que je gagnerai ma cause un jour, et les armes à la main s'il le faut. Et puis dites-moi, messieurs banquiers. »
Et le géant changea de ton, comme s'il en avait assez de jouer les écoliers qu'on se monce. Il prit le banquier par la robe, entre le pouce et l'index, et commença de le soulever, doucement.
« Dites-moi donc. » « Vous m'avez payé mon procès, mes écuries, mes partisans, soit. Mais n'avez-vous pas fait quelques bonnes petites recettes grâce à moi ? Qui donc vous a annoncé, voici 7 ans, que les Templiers allaient être piégés comme lapins en garenne, et vous a conseillé de leur faire quelques emprunts que vous n'avez jamais eu à leur rendre ? Qui donc vous a averti des rognages de monnaie, ce qui vous a permis de mettre tout votre or en marchandises, que vous avez revendu avec un tiers de gain ? Hein ? Qui donc ?
Les traditions de la finance sont éternelles, et toujours la haute banque eut ses informateurs auprès des gouvernements. Le principal informateur de Messer Spinello Ptolémée était le comte Robert d'Artois, parce que celui-ci était l'ami et le commensal de Monseigneur le frère du roi, Charles de Valois, qui siégeait au conseil étroit et lui racontait tout. Ptolémée se dégagea, défroissa le pli de sa robe, sourit et dit, la paupière gauche toujours close,
« Je reconnais, Monseigneur, je reconnais. Vous m'avez quelquefois bien utilement renseigné. Mais hélas... »«
Quoi hélas ?»«
Hélas, les bénéfices que vous m'avez fait faire sont loin de couvrir les sommes que je vous ai avancées. »«
Est-ce vrai ?»«
C'est vrai, Monseigneur, » dit Ptolémée de l'air le plus innocent et le plus profondément désolé.
Il mentait. Et il était sûr de pouvoir le faire impunément, car Robert d'Artois, s'il était habile à l'intrigue, s'entendait peu au calcul d'argent.
« Ah !» fit ce dernier, dépité.
Il se gratta la couenne, balança le menton de droite à gauche.
« Tout de même, les Templiers, vous devez être bien content ce matin, » demanda-t-il.
« Oui et non, Monseigneur, oui et non. Depuis longtemps déjà, il ne faisait plus tort à notre négoce.
À qui va-t-on s'en prendre maintenant ?
À nous autres, aux Lombards, comme on dit. Le métier de marchand d'or n'est point facile, et pourtant, sans nous, rien ne pourrait se faire.
À propos, ajouta Ptolémée, Monseigneur de Valois vous a-t-il appris si l'on allait encore changer le cours de la livre par ici, comme je l'ai entendu assurer ?
Non, non, rien de tel. Mais cette fois, dit d'Artois qui suivait son idée, je tiens ma haut. Je tiens Mao parce que je tiens ses filles et sa cousine. Et je vais les étrangler, crac, comme de malfaisantes belettes.
La haine lui durcissait les traits et lui dessinait un masque presque beau. Il s'était de nouveau rapproché de Ptolémée. Celui-ci pensait, cet homme-là, pour sa vengeance, est capable de n'importe quoi. De toute façon, je suis décidé à lui prêter encore 500 livres. Puis il dit,
« De quoi s'agit-il ?
Robert d'Artois baissa la voix. Ses yeux brillaient. Les petites catins ont des amants, et depuis cette nuit, j'en sais les noms. Mais silence, je ne veux point donner l'éveil. Pas encore. Le Siennois se mit à réfléchir. On le lui avait déjà dit, il ne l'avait pas cru. En quoi cela peut-il vous servir ? Demanda-t-il.
Me servir ? S'écria d'Artois. Mais voyons, banquier, vous imaginez la honte ! La future reine de France et ses belles-sœurs, pincées comme des ribaudes avec leurs freluquets ! C'est scandale, jamais oui ! Les deux familles de Bourgogne sont plongées dans cette crotte jusqu'à la gueule. Mao perd tout crédit à la cour. Les mariages sont dissous. Les héritages disparaissent des espoirs de la couronne. Je requiers alors reprise de mon procès et je le gagne.
Il marchait de long en large et ses pas faisaient vibrer le plancher, les meubles, les objets.
Et c'est vous, dit Ptolomée, qui allez découvrir la honte? Vous irez trouver le roi?
Mais non, messère, pas moi! Moi, on ne m'entendrait pas. Quelqu'un d'autre de bien mieux désigné. Mais qui n'est pas en France. Et c'est précisément la seconde chose que je venais vous demander. Il me faudrait un homme sûr et peu voyant pour aller en Angleterre porter un message.
À qui, monseigneur ?
À la reine Isabelle.
Ah, murmura le banquier.
Puis il y eut un silence pendant lequel on n'entendit que les bruits de la rue.
Il est vrai que Madame Isabelle ne passe pas pour chérir beaucoup ses belles-sœurs de France.
Dit enfin Ptolomée, qui n'avait pas besoin d'en entendre davantage pour comprendre comment d'Artois avait monté son complot.
« Vous êtes fort son ami, je crois, et vous fûtes là-bas il y a peu de jours. »«
J'en suis revenu la semaine passée, et j'ai été assez vite en besogne. »«
Mais pourquoi n'envoyez-vous pas, Madame Isabelle, un homme à vous, ou bien un chevaucheur de Monseigneur de Valois ?»«
Mes hommes sont connus, et ceux de Monseigneur de Valois aussi, dans ce pays où tout le monde surveille tout le monde. » On aurait au fait de me gâcher mon affaire. J'ai pensé qu'un marchand, mais un marchand en qui l'on puisse se fier, conviendrait mieux. Vous ne manquez pas de gens qui voyagent pour vous. D'ailleurs, le message n'aura rien qui puisse faire inquiéter le porteur.
Ptolomée regarda le géant dans les yeux, médita un moment, puis enfin, il secoua sa clochette de bronze. « Je vais essayer de vous rendre encore une fois service, » dit-il.
La tenture s'écarta, et le même jeune homme qui avait accompagné l'archevêque reparut. Le banquier le présenta.
Guccio Baglioni, mon neveu, nouvellement arrivé de Sienne. Je ne crois point que les prévôts et sergents de notre ami Marigny le connaissent encore. Bien qu'hier matin, ajouta Ptolomée à mi-voix en regardant le jeune homme avec une feinte sévérité, il se soit distingué par une belle prouesse au vu du roi de France. Comment le trouvez-vous ?
Robert d'Artois considéra Guccio.
Joli garçon, dit-il en riant. Bien tourné, mollet sec, taille mince, yeux de troubadour. Est-ce lui que vous dépêcheriez, messire Ptolomée ?
C'est un autre moi-même, dit le banquier, en moins gros et en plus jeune.
J'ai été comme lui, figurez-vous, mais je suis seul à m'en souvenir.
Si le roi Édouard le voit, bougre comme on le connaît, vous risquez fort que ce jouvenceau ne vous revienne jamais. » Et là-dessus, le géant partit d'un grand rire auquel se joignirent l'oncle et le neveu.
« Guccio, dit Ptolomée, tu vas connaître l'Angleterre. Tu partiras demain à l'aube crevant. Tu te rendras à Londres chez notre cousin Albizzi. »«
Albizzi, je connais ce nom, » interrompit d'Artois.
« Ah, mais oui, c'est le fournisseur de la reine Isabelle. »
« Vous voyez, monseigneur. Donc, tu te rendras chez Albizzi, et là, avec son aide, tu iras à Westmoutier, délivrer à la reine et à elle seule le message que monseigneur va écrire. Je te dirai tout à l'heure plus longuement ce que tu devras faire. »«
Je préférerais dicter, » dit d'Artois. « Je me sers mieux d'un épieu que de vos satanés plumes d'oie. »
Ptolomée pensa. « Et méfiant, en plus, le gaillard. Il ne veut pas laisser de traces. »
« À votre guise, monseigneur, je vous écoute. »
Et il prit lui-même sous la dictée la lettre suivante.
« Madame, les choses que nous avions devinées sont véridiques et plus honteuses encore qu'il se pouvait croire. Je sais les personnes et les ai si bien découvertes qu'elles ne sauraient échapper si nous faisons hâte. Mais vous seul avez puissance assez pour accomplir ce que nous escomptons. Et mettre terme par votre venue à tant de vilainies qui noircit moult l'honneur de vos parents.
n'ai d'autre désir que d'être en tout votre serviteur de corps et d'âme. »
La signature, monseigneur ?
Demanda Ptolomée. La voici, répondit d'Artois en sortant de sa bourse une énorme bague d'argent qu'il tendit au jeune homme. Il en portait une semblable au pouce, mais en or.
Tu remettras ceci à Madame Isabelle, elle saura. Mais es-tu sûr, troubadour, de te faire accorder audience dès ton arrivée ?
Bah, monseigneur, dit Ptolomée, nous ne sommes pas trop mal placés auprès des souverains d'Angleterre. Quand le roi Édouard est venu l'année passée avec Madame Isabelle, il a emprunté à nos compagnies 20 000 livres que nous nous sommes associés pour lui fournir et qu'il ne nous a pas encore rendus.
« Lui aussi ?» s'écria d'Artois.
« À propos, banquier, et cette première chose que je venais vous demander ?»«
Ah, je ne vous résisterai jamais, monseigneur, » dit Ptolomée en soupirant.
Et il alla prendre dans le coffre un sac qu'il remit à d'Artois en ajoutant.
« 500 livres, c'est tout ce que je puis. Nous marquerons cela à votre compte, ainsi que le voyage de votre messager. »
« Ah, banquier, banquier !» s'écria d'Artois avec un grand sourire qui illumina son visage.
« Tu es un ami. Quand j'aurai repris mon comté paternel, je ferai de toi mon argentier. »«
J'y compte bien, monseigneur, » dit l'autre en s'inclinant.
« Et sinon, je t'emmènerai avec moi dans l'enfer pour que tu m'achètes les faveurs du diable. »
Et le géant sortit, trop large pour la porte, en faisant sauter le sac d'or comme une balle dans sa paume.
« Vous lui avez encore donné de l'argent, mon oncle ?»
dit Guccio en hochant la tête avec réprobation.
« Vous aviez pourtant bien dit
« Guccio mio, Guccio mio !» répondit doucement le banquier, et maintenant il avait les deux yeux bien ouverts.
« Rappelle-toi toujours ceci. Les secrets des grands de ce monde sont l'intérêt de l'argent que nous leur prêtons. Dans ce même matin, Monseigneur Jean de Marigny et Monseigneur d'Artois m'ont donné sur eux des lettres de crédit qui valent plus que de l'or et que nous saurons négocier en leur temps. Quant à l'or, nous allons en rattraper un peu. »
Il resta pensif un instant et reprit. « En revenant d'Angleterre, tu feras un détour. Tu passeras par Nauphle-le-Vieux. »«
Bien, mon oncle, » répondit Guccio sans enthousiasme.
Notre commis de là-bas n'arrive pas à recouvrer une créance que nous avons sur les châtelains de Crécy. Le père vient de mourir, les héritiers refusent de payer. Il semble qu'ils n'aient plus rien.
Et comment faire s'ils n'ont plus rien ?
Bah, ils ont des murs, ils ont une terre, ils ont peut-être des parents. Ils n'ont qu'à emprunter ailleurs de quoi nous rendre. S'ils ne peuvent, tu vas voir le prévôt de Montfort. Tu fais saisir, tu fais vendre. « C'est dur, je sais, mais un banquier doit s'habituer à être dur. Pas de pitié pour les petits clients, sinon nous ne pourrions plus servir les gros. »«
À quoi penses-tu, figlio mio ?»«
À l'Angleterre, mon oncle, » répondit Guccio. Le retour par Nauphle lui paraissait une corvée, mais qu'il acceptait de bon gré. Toute sa curiosité, tous ses rêves d'adolescent étaient déjà tournés vers Londres. Il allait traverser la mer pour la première fois. La vie de marchand lombard était décidément une vie agréable et qui ménageait de belles surprises. Partir, courir les routes, porter au prince des messages secrets. Le vieil homme contempla son neveu avec un air de profonde tendresse. Guccio était la seule affection de ce cœur rusé et usé.
« Tu vas faire un beau voyage, et je t'envie, » dit-il. « Peu de gens à ton âge ont l'occasion de voir autant de pays. Instruis-toi. » Fouine, furette, regarde tout, fais parler et parle peu. Prends garde à qui t'offre à boire, ne donne pas aux filles plus d'argent qu'elles ne valent et veille bien à te découvrir devant les processions. Et si tu croises un roi sur ton chemin, fais en sorte qu'il ne m'en coûte pas cette fois un cheval ou un éléphant.
« Est-il vrai, mon oncle ?» demanda Guccio en souriant, « que Madame Isabelle est aussi belle qu'on le dit ?